Bonjour à tous. Donc, ouais, je suis contente, mes prières sont efficaces, on n'a pas été confinés à nouveau. Du coup, je peux me tenir debout devant vous. On va commencer par écouter un petit film. Alors, vous allez voir quelques diapos et puis il y a un petit film. Voilà, tout n'était pas sur le film, mais c'est pour vous donner une petite idée de l'ambiance ce jour-là. Alors, dans le bulletin du mois de janvier, Hervé et moi, nous avons partagé notre témoignage sur une façon d'évangéliser que notre Église avait choisie. Et c'était les cellules. Donc, le petit film que vous venez de voir, c'est une des activités que notre cellule a organisées. Les autres cellules, certaines ont eu un peu le même programme. Et c'était un groupe d'Américains qui souhaitaient mettre ses dons au service des églises en France pendant ses vacances. Donc ils sont venus en vacances et puis ils ont proposé de faire des concerts de jardin. Alors nous, nous y avons invité nos voisins. Mais voilà, connaissez-vous vos voisins? Notre pasteur nous a rappelé dimanche dernier que notre nouveau bâtiment, ce n'est pas la terre promise, alors que Josué avait atteint la sienne. Notre responsabilité, c'est de la faire vivre maintenant et d'y faire vivre une église avec un grand E, et pas rester dans une église avec un petit E qui est un bâtiment et qui glorifie Dieu. Alors, oui, c'est vrai, beaucoup d'entre nous ont vraiment beaucoup travaillé, ont tout donné pendant presque 3 ans. Nous, on a de la chance, on est arrivé un peu à la fin. Et donc, on n'est pas trop fatigué par ce projet. Mais beaucoup aspirent maintenant à un repos bien mérité. Alors, quand on part en vacances, souvent, après une dure année de labeur, on met dans ses valises le livre qu'on voudrait absolument lire, le jeu auquel on aimerait enfin pouvoir jouer avec nos enfants ou en couple ou nos amis, le courrier auquel il faudrait répondre et qui est resté si longtemps en attente. Bon, c'est vrai que parfois on vise seulement la chaise longue et c'est ça qui concentre toutes nos envies. Mais si pendant ce temps de repos dans lequel se trouve momentanément l'Église, nous commencions à réfléchir sereinement à des façons de vivre notre Église lorsque Dieu aura renouvelé nos forces. Des façons d'y faire entrer nos voisins. Aujourd'hui donc, comme on l'a entendu dans notre fédération baptiste, c'est le dimanche de l'évangélisation et on n'a pas vu le nom de toutes les églises qui sont citées dans le PowerPoint, donc je vais vous les donner, ces noms d'églises. Si ça fait tilt dans votre cerveau, vous pourrez penser à prier pour ces postes MIB. Il y a Rennes, Vannes, Plo-Hermel, Cholet, Caen, Saint-Lô, et bien sûr toute l'équipe MIB qui porte ce travail. Alors, est-ce que soutenir ce travail, ses frères et sœurs par la prière, ça suffit, c'est ok, on est dans l'évangélisation, on travaille de cette façon et c'est bon. Alors bien sûr, j'imagine que comme moi, vous allez répondre non. Non, ça ne suffit pas pour obéir à l'ordre que le Seigneur nous a donné. Quel est cet ordre? Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous connaissons bien ce texte dans Actes, chapitre 1er, le verset 8. Alors on connaît la théorie, elle est exposée sous vos yeux. Mais pour la mettre en pratique, est-ce que nous le faisons? Alors, je vais peut-être déjà doucher votre enthousiasme. Oui, nous voulons bien faire, nous avons envie de partager le trésor que Dieu nous a confié. La bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, du pardon de nos péchés, de la vie éternelle qu'il nous a offert. Malheureusement, quand l'occasion se présente à nous, nous tournons parfois le dos. Nous sommes tout feu, tout flamme lorsque nous entendons l'appel du Seigneur. Mais Dieu n'est pas dupe. Notre enthousiasme, nos engagements forts, il sait parfois ce qu'ils sont. Déjà avant d'être crucifié, Jésus a repris Pierre, qui, bien présomptueux, lui affirmait « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Et Jésus répondit « Tu donneras ta vie pour moi ? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié trois fois. » Ce texte, nous le lisons dans Jean, chapitre 13, les versets 37-38. Ah oui, n'est-ce pas? Nous pouvons bien nous reconnaître, nous aussi, dans ces paroles. Combien de fois avons-nous délibérément tu que nous étions chrétiens? Combien de fois avons-nous tourné le dos au Saint-Esprit qui nous encourageait à aller vers telle ou telle personne? Moi, ça m'est arrivé, et même si j'ai honte d'en témoigner devant vous ce matin, je ne peux pas l'oublier. Un jour, alors que j'étais dans un salon de coiffure, l'employé qui s'occupait de moi a commencé de me parler de ses soucis. Et là, j'ai reçu très clairement la pensée qu'il fallait que je lui parle de Dieu. Et j'avais même tout le déroulement de la conversation qui venait dans ma tête, comme si le Saint-Esprit me disait « Tu lui dis ça, elle va répondre ça, tu lui dis ça. » Et puis, j'ai eu peur. J'ai eu peur de sa réaction, j'ai eu peur de me faire rejeter. Résultat, je n'ai rien dit et elle n'a pas entendu parler de Dieu ce jour-là, en tout cas pas par moi. Et puis j'ai demandé pardon à Dieu et j'ai promis de lui parler la prochaine fois. Et donc ce nouveau jour, j'étais vraiment pleine de courage en entrant chez ma coiffeuse. Jusqu'à ce que je découvre que l'employé avait été muté dans un autre salon de la même chaîne. Quelle douche froide! Je me suis un peu sentie comme Pierre lorsqu'il a réalisé que oui, le coq était en train de chanter et il avait bien renié Jésus trois fois. Alors heureusement, Jésus a relevé Pierre et dans Jean 21, nous pouvons lire comment il demande à Pierre de prendre soin de son troupeau. Alors, forte de cet encouragement, je peux, moi aussi, me remettre en marche. Et vous? J'aimerais que nous suivions un autre personnage de la Bible dans une deuxième partie. J'ai d'abord pris l'exemple de Pierre pour nous rappeler de ne pas être présomptueux et comprendre que nous avons besoin de veiller et de rester fidèles à ce que Dieu nous demande, et c'est pas si facile. Ni automatique. Alors maintenant, j'aimerais attirer notre attention sur la façon de faire de l'apôtre Paul. Il est à Philippe et il cherche un lieu de culte. Et nous lisons dans Actes au chapitre 16, les versets 13 et 14. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et nous avons parlé aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre, originaire de Thyatire, qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Alors j'ai une carte où on voit Thyatire. Donc c'est complètement vers la Turquie. Vous voyez, vous avez trois noms sur ce qu'on appelle maintenant la Turquie, Troas, Pergame, en dessous, il y a Thyatire. Et ils sont à Philippe qui est tout au nord, là-haut. Donc c'est déjà Dieu qui suscite les circonstances des rencontres, hein, parce que Lydie, qui est originaire de si loin, voilà qu'elle peut rencontrer Paul là. Et du coup, elle le rencontre sur ce qui est le territoire européen. Lydie sera la première convertie d'Europe. Et pour vous situer, vous avez tout en bas Corinthe et Athènes, dont, Athènes dont on va parler. Et Paul, il ne s'est pas découragé par le fait d'avoir que des femmes. Il pensait avoir une assemblée d'hommes et de femmes. Il a commencé à discuter, ça ne gênait pas lui un homme. Vous savez qu'à l'époque, ce n'était pas toujours évident de discuter homme-femme. Non, ça ne l'a pas gêné, il a commencé à discuter. Et Lydie, ce n'était pas une femme juive. C'était juste une étrangère, bon, qui aimait Dieu, mais voilà. Ça montre Paul qui saisit toute occasion pour témoigner. Il n'y a pas un plan précis, il veut juste rencontrer des gens et discuter pour leur parler du Seigneur, et voilà, il va vers eux. C'est un exemple que nous pouvons suivre. Il n'est pas mal à l'aise, nous n'avons pas besoin d'être mal à l'aise. Et moi, j'aime bien l'imaginer, en train de discuter au bord de la rivière, de parler à celles et à ceux qui sont là, parce que comme ils commencent à discuter, je pense que ça commence aussi à s'assembler autour. Tout simplement, tranquillement. S'il s'était dérobé à ce que l'esprit le poussait à faire, Lydie n'aurait peut-être pas pu entendre ce message de l'Évangile pour devenir la première convertie d'Europe. Alors, il ne faut pas se dérober quand le Saint-Esprit nous pousse à quelque chose. Nous retrouvons ensuite Paul à Athènes. Et à Athènes, ce qu'il voit, ça le dérange. Il n'a pas préparé tout un discours, mais il sait qu'il doit parler de Dieu, et son amour pour Dieu le contraint à parler. Pendant que Paul les attendait à Athènes, son esprit était profondément indigné à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les juifs et les non-juifs qui craignaient Dieu. Et chaque jour, sur la place publique, avec ceux qu'il rencontrait. Et voilà ce qui se passe. Quelques philosophes, épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Ils l'attrapèrent et le conduisirent à l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement que tu apportes ?»« En effet, tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela veut dire. » Or, tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient là ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les dernières nouveautés. Ça me fait penser à notre société où on aime bien écouter tous les potins à droite, à gauche. Alors là, ce n'est pas le cas, ce n'est pas des potins, mais nous voyons l'apôtre Paul profiter d'une belle occasion de ne pas se taire. Lui, un érudit juif, citoyen romain, était capable de rivaliser avec les philosophes grecs. Donc Dieu ne l'avait pas placé là par hasard. Dans sa tête, c'était rien n'était planifié, il n'était pas comme moi avec ses feuilles, sa méditation pour bien expliquer en trois points et tout. Mais il y avait des gens avec qui il pouvait rivaliser et le Saint-Esprit lui donnait les paroles qui étaient nécessaires pour leur parler. C'est pareil, il n'a pas fait une campagne d'évangélisation, il n'a pas invité les gens, venez, je vais être à la réopage, venez m'écouter. Mais il est allé à la rencontre des personnes qui sont loin de Dieu et il est allé dans leur quotidien. Et leur quotidien, c'était là d'écouter tout ce qui se disait de nouveau. Et puis enfin, un dernier exemple dans la vie de Paul. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif du nom d'Aquilas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de quitter Rome. Il se lia avec eux. Comme il avait le même métier, il resta chez eux, ils travaillèrent ensemble. Ils étaient fabricants de tentes. Pourquoi est-ce que notre grand voyageur s'arrête chez Priscille et Aquilas ? Parce qu'ils pratiquent le même métier, tout simplement. C'est pas parce que ce sont des personnes exemplaires, ou qu'on lui a recommandé, ou très pieuses. Non, juste parce qu'ils ont un point commun, un sujet de conversation. Et ensuite, nous savons qu'ils vont devenir amis, qu'ils vont servir le Seigneur ensemble. Mais là, le jour de leur rencontre, rien de cela ne se dessine encore. Ils sont juste liés par une activité professionnelle, la même occupation. Alors, si je me suis arrêtée sur ces différentes facettes de l'activité de Paul, c'est pour vous permettre de comprendre la façon dont nous avons pu développer l'activité des cellules à Strasbourg. Vous montrer comment cela peut être une façon d'évangéliser, surtout dans notre contexte actuel de Covid. Alors, je ne suis pas en train de vous dire ce matin que ici, l'Église à Clermont-Ferrand veut développer ce programme et il faut vous y préparer. Mais c'est vraiment un témoignage de ce que nous avons pu faire. Et à l'époque, il y avait une formation, moi je ne l'ai pas suivie, c'est Hervé qui a suivi les différentes réunions, mais ça m'a vraiment marqué de vivre cette expérience et ça m'a donné un autre regard sur la façon d'aborder les autres, d'approcher les voisins et de partager avec eux ce que Dieu a fait pour moi. Alors, comment ça se passait dans ces cellules ? En fait, le principe de base, c'est le même que celui de la division cellulaire dans notre corps. Au début, il y a un petit groupe, hein, donc on voit la première cellule, deux, puis ça se divise. Vous connaissez, pour les lycéens, c'est la mitose, le mot scientifique. Mais donc au début, il y a un petit groupe qui se crée dans l'église. Alors nous, on avait plusieurs petits groupes qui se sont créés, donc plusieurs cellules. Et on est censé se diviser pour se multiplier. Et cela profite à la croissance spirituelle de l'Église, mais aussi à la croissance numérique. Donc nous nous sommes retrouvés avec un couple d'amis de notre Église. Et moi, je vous avoue, je n'étais pas du tout convaincue au départ. D'un côté, je sentais qu'il fallait y aller, mais d'autre côté, je me posais tellement de questions, j'hésitais beaucoup. Et puis en même temps, j'avais une vision que c'était un peu ce qu'on pourrait faire au sein des groupes de dames dans nos églises, pour être témoin auprès des femmes musulmanes. Mais ça, c'est un autre débat, et donc je ne vais pas insister là-dessus. Donc, pour que la cellule puisse se diviser, il faut d'abord qu'elle soit parfaitement bien constituée. Nous nous sommes donc retrouvés plusieurs fois avec notre couple d'amis pour bien nous connaître, pour cibler ce que nous avions envie de faire, pour prier, pour discuter, pour partager. D'autres cellules de l'Église, nous avons vite décidé de faire des repas un peu festifs, d'inviter nos voisins à des repas et les gens qui étaient un peu dans notre classe d'âge. D'autres groupes ont décidé d'aller faire du jogging et d'inviter des gens à faire du jogging avec eux pour pouvoir discuter pendant les pauses, quand on souffle. Enfin, il y avait plein d'idées comme ça qui ont germé pour contacter les gens. Et donc, on a commencé à faire la liste de nos voisins. Pour eux et pour nous, parce qu'en plus on était assez loin les uns des autres, donc c'était une fois chez eux, une fois chez nous, ça nous a permis de contacter plus de monde. Et puis, une fois que cette liste était établie, on a commencé à prier pour ces personnes. Et on a prié pendant tout un trimestre. On essayait de se réunir une fois par semaine et de prier pour ces personnes, pour que Dieu les touche, pour que Dieu nous permette de les aborder. Puis à un moment, il faut se lancer, hein. Donc, qu'est-ce qu'on allait faire ? On avait dit qu'on voulait faire des repas. On a invité les personnes, mais on ne mettait pas la pression. On ne leur disait pas de venir à de l'évangélisation. On voulait tisser des liens d'amitié avec eux, qu'ils sachent qu'on était là et qu'on pouvait les aider. Et donc, on a commencé à les inviter. On voulait faire, comme on a vu tout à l'heure, discuter tranquillement au bord de la rivière, comme Paul. Et puis, on a fait une raclette. On a fait une soirée jeu. On a fait ce fameux concert de jardin dont vous avez vu quelques images tout à l'heure. Et on a passé de bons moments. Et à mon grand étonnement, petit à petit, des questions sont venues. Et puis des demandes de prière. Et certains ont même commencé à venir voir ce qu'était un culte. Alors ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ça s'est fait dans la durée. Mais ça s'est fait. Et moi, j'étais vraiment ébahie. Il y en a qui ne sont pas restés, ils n'avaient pas envie de parler de Dieu, c'est leur choix. Et Dieu a conduit vers nous des personnes qui avaient besoin d'aide, de notre compassion et de nos prières. Dans le témoignage du mois dernier, on a parlé d'une jeune femme, mais il y en a eu d'autres. Il y a une jeune femme victime d'un accident et dont le dossier judiciaire se perd dans les méandres des tribunaux. Il y a une dame qui a une maladie chronique, qui se sent tellement seule avec toujours plein de douleurs. Un couple de retraités dont la femme a vraiment soif de Dieu. Et donc cette fameuse maman célibataire dont le fils fréquente des bandes pas très recommandables, il voulait racketter sa maman, il a failli la tabasser. Chacun des créateurs du groupe avait une affinité avec l'une ou l'autre de ces personnes et a pu prendre soin d'elles. Et finalement, nous on a quitté Strasbourg, mais là, comme c'était la nouvelle année, j'ai envoyé mes vœux au groupe et à notre ancienne cellule. Et bien les non-chrétiens, tous les amis qu'on a connus sont toujours là. Et d'autres se sont ajoutés et ils continuent à faire des activités. Donc j'ai reçu là la photo de la galette des rois cette année. Donc ça continue, il y a toujours les gens qui veulent être ensemble, qui ont soif de ce contact. Et c'est ça qui m'a marqué, c'est que les gens ont soif d'un contact. Et au lieu de rester chacun chez soi, nous pouvons nous créer ce contact. Alors il n'y a pas de pression. Et ceux qui se disent non chrétiens, ils sont contents qu'on prie pour eux. Je vous ai parlé de la dame qui a soif de Dieu. Ben, son mari, une fois, il a vraiment demandé qu'on prie pour lui. Il dit, bon, je reste quand même, je ne suis pas sûre, hein, mais priez quand même pour moi. Et voilà, et on continue à témoigner, mais sans aucune pression, sans dire maintenant, tu as entendu assez longtemps, il faut que tu te convertisses ou quoi. Alors bien sûr, il faut que maintenant ce groupe arrive à l'étape suivante, que ceux qui ont rencontré le Seigneur soient assez affermis pour prendre leur envol, créer à leur tour une cellule pour rencontrer d'autres personnes et leur parler de Dieu. C'est ça le principe des cellules, quand on est assez nombreux, assez de personnes qui se sont converties et tout, on peut créer d'autres cellules et l'Église grandit aussi de cette façon. Mais chaque chose en son temps et il ne semble pas que cette cellule soit encore arrivée là. Et Dieu ne demandera pas de rendre compte du nombre de cellules créées, mais tout simplement de l'obéissance à son appel. Alors j'aimerais terminer ce matin avec un livre que j'ai rencontré pendant ce temps à Strasbourg et qui s'appelle « La façon la plus simple de changer le monde ». Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler, mais les auteurs nous expliquent comment, en décidant d'inviter les gens de leur rue, de leur quartier, très régulièrement pour partager un repas, ils ont pu créer des liens et prendre soin de personnes dont ils n'auraient pas soupçonné les problèmes. Alors j'espère que ça ne sera pas trop long pour vous, je vais vous citer quelques cas, parce que c'est aussi ce livre qui me donne soif de plus d'aller vers les autres. Donc nous avons par exemple l'exemple de Rachel. Donc c'est un des auteurs qui raconte ça. « Rachel vivait au bas de la rue où habitait ma famille. Nous cherchions égoïstement une babysitter, mais nous sentions en même temps que le Saint-Esprit nous conduisait à ouvrir notre maison à cette jeune demoiselle. » Lorsque nous l'avons rencontrée, nous n'avions aucune idée de ce que son récit allait nous apprendre. Nous supposions qu'elle était une jeune fille insouciante, la vingtaine à peine passée. Mais, en apprenant à la connaître, nous avons découvert qu'elle portait de profondes blessures de son passé. Elle avait connu toutes les formes possibles de violences sexuelles de la part de ceux en qui elle aurait dû avoir confiance. Son aspect bout en train s'effaça au fur et à mesure que les fragiles pansements tombaient les uns après les autres, laissant apparaître les cicatrices de son passé. Souvent, nous n'avons fait que l'écouter. Nous avons appris que l'une des choses les plus importantes que vous puissiez faire comme disciple de Jésus, c'est de poser les bonnes questions et d'écouter. En prêtant une oreille attentive assez longtemps, vous entendrez inévitablement des récits de vie brisée. Durant les moments que Rachel passa chez nous, au cours des mois suivants, nous avons vu ses larmes de souffrance et de défaite se transformer en larmes de joie et de victoire. En offrant tout simplement l'hospitalité, nous avons eu l'insigne privilège d'entourer cette jeune demoiselle et de voir Dieu transformer son cœur. Nous l'avons vu lui accorder la guérison, mais également une nouvelle dignité, une nouvelle valeur, une nouvelle identité, un nouvel espoir, un nouveau but et un cœur flambant neuf. Nous sommes devenus accros du concept de l'hospitalité. l'autre auteur de ce livre nous explique comment il a pu simplement entrer en contact avec un de ses voisins. Parce que c'est bien beau de nous dire d'aller vers les voisins, mais c'est pas toujours facile de leur parler. Ils sont pas toujours aussi tellement agréables. Comment faire? Voici ce qu'il nous dit. J'ai longtemps essayé de rencontrer Lee, un de nos voisins, mais sans succès. Finalement, j'ai fait attention à quel moment il sortait sa poubelle. Et j'ai commencé à sortir la mienne en même temps. Bonjour Lee, quel plaisir de vous voir de si bonne heure. Il fallut du temps, mais nos brèves salutations matinales autour de nos poubelles se sont transformées en entretiens prolongés dans la rue. Et un autre cas, ici à Atlanta, j'avais un voisin tellement reclus chez lui que j'aurais juré qu'il était un témoin protégé. J'avais tout essayé pour le rencontrer sans aucun succès. Finalement, un jour, j'ai envoyé mes deux enfants, âgés de 4 et 6 ans, frapper à sa porte pour l'inviter à notre barbecue dans le jardin. Et ça a marché. Il est venu. Voilà. Donc, tous ces exemples que nous avons pu entendre ce matin, trouvés au long de la Bible, vécus personnellement ou bien découverts lors de lecture, tout cela, ça m'encourage à aller de l'avant, vers tant de personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui vivent loin de lui, empêtrées dans des situations qui semblent inextricables. Alors, comme on nous l'a rappelé, Eric nous l'a dit, on n'a pas besoin d'attendre une grande campagne d'évangélisation. Le but, ce n'est pas de faire entrer d'abord les gens dans l'Église, mais de leur faire découvrir qu'il existe une solution, une porte de sortie à leurs problèmes ou une porte d'entrée à mieux. Ça dépend du point de vue qu'on veut adopter. Ce que le monde leur enseigne sur Dieu n'est pas toujours juste, mais avec Dieu, ils peuvent avoir une vie tellement plus belle et colorée. Et ensuite, ils pourront venir animer de leur présence ce lieu dont Dieu nous a fait cadeau. Partager l'évangile, c'est si compliqué et pourtant si simple. Alors, j'aimerais terminer avec ces quelques mots de Jean-Luc Gadreau que nous avons vu dans la présentation du dimanche de l'évangélisation. Il souhaite que ce culte soit l'occasion d'encourager au témoignage, à l'importance de la croissance, du développement, à cet enjeu fondamental d'être témoin partout où le Seigneur nous place et nous conduit. Ce n'est pas l'affaire exclusive de quelques spécialistes, de pionniers ou de missionnaires, d'un comité ou d'un département d'une fédération, mais bien celle de tout chrétien.